La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Biennale de Venise 2019. Biennale de Venise 2019, art plastique, impression dehors du pavillon de la Belgique.
Mon nom, c'est José Drouin-Brisebois. Je suis la conservatrice au Musée des Beaux-Arts du Canada. Je suis une des commissaires du pavillon cette année, donc on est 5 qui ont travaillé avec l'équipe de Issouma.
Arrêt sur pavillon Giardini, Arsenal. Canada, France, Suisse, Japon, Madagascar. Biennale de Venise 2019 jusqu'au 24 novembre.
Issouma, c'est important de travailler avec plusieurs personnes. C'est un collectif, donc ils sont habitués à avoir plusieurs voix, plusieurs perspectives. Ça fait vraiment un esprit d'équipe.
Issouma, ça veut dire quoi?
Issouma, ça veut dire réfléchir.
Biennale de Venise 2019.
Inuktitut, donc une langue où est-ce que les Inuits parlent dans le nord du Canada. Donc ça veut dire penser, réfléchir. Qui on est, être humain, aussi un peu sur côté activiste, sont aussi intéressés à l'effet que les médias ont sur nous, comment ça change notre réalité. C'est juste réfléchir.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez voir ce qui
est. C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
le monde invisible.
Pour eux, l'accessibilité est très importante. Donc, ils ne présentent pas seulement le film à l'intérieur du pavillon canadien. Il est aussi disponible sur iTunes. Il va être présenté dans les cinémas à travers le monde. Donc, cette idée de vraiment rendre des choses possibles, de créer des plateformes pour les discussions, pour des échanges. Donc, c'est pas un côté monétaire. Il y a un côté vraiment de rejoindre le plus de gens possible avec leurs œuvres. Puis, ils ont des messages aussi très importants. Ils font des films d'une perspective inuite, donc qui est très différent. Donc, c'est une équipe qui ne semble pas juste des cinéastes Inuit, c'est un mélange, mais les histoires sont toujours racontées du point de vue inuit.
Giardini, pavillon du Canada, collectif d'artistes inuits. José Drouin-Brisebois, commissaire.
Le film qu'on présente ici, donc, est un nouveau film. C'est One Day in the Life of Noah Piougatouk. Donc, une journée dans la vie de Noah Piougatouk. C'est un moment important où est-ce que une famille inuite, on leur demande de déménager. Un représentant du gouvernement canadien qui vient les voir puis qui dit, vous devez déménager. Alors qu'ils ne veulent pas parce qu'ils vivent sur la terre, ils vivent de la chasse et tout. Puis c'est où est-ce qu'ils ont toujours vécu. Et puis on les force à déménager, puis c'est vrai. C'est un vrai événement. C'est quelque chose qui a touché de façon très personnelle le cinéaste Zacharias Kounouk, qui est aussi connu parce qu'il a gagné avec Athéna Jouak la caméra d'or à Cannes dans le passé, donc pour aussi un film qui était à Inuktitut.
Biennale de Venise 2019. Impression dehors du pavillon de la Belgique.
C'est une histoire très personnelle, puis aussi une histoire très politique, parce que c'est un vrai événement qui s'est passé en 1961. Et puis, dans l'autre partie du pavillon, ce qu'on voit, c'est, à certaines heures, ça va être une diffusion en direct de Igloolik, dans le Nunavut, encore dans le nord canadien. Et puis, ce qu'on va voir, c'est aujourd'hui. Donc, il y a un mélange entre le passé, les années 60, puis ce moment important où est-ce qu'on a forcé les Inuits, justement, à déménager.
Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Alors que le climat change, il y a beaucoup de ressources naturelles qui deviennent de plus en plus intéressantes pour différentes compagnies, les mines entre autres. Donc, il va y avoir plusieurs diffusions en direct, certaines qui vont être particulièrement centré sur cet élément de la confrontation entre les mines et puis les peuples inuits, ou le peuple inuit. Avec les gens qui sont déplacés, les réfugiés, les immigrants et tout ça, pour moi, ça devient vraiment une condition universelle. C'est dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Puis, ce qui est intéressant avec le travail d'Aissouma, c'est qu'on peut voir aussi c'était quoi l'impact pour eux. C'était très, très difficile. Même avec le pavillon canadien, donc la tension entre représenter le Canada et puis toujours être en tension avec le Canada, réalisant qu'il y a des choses qui ont été vraiment injustes. Plus qu'injuste, par des écoles résidentielles, entre autres, où est-ce que le gouvernement a forcé les Inuits en allant chercher leurs enfants, les amenant dans des écoles qui ont vraiment détruit des générations. Puis ça devient un traumatisme qui continue pour ces gens. Ça fait partie du passé. On peut apprendre du passé, puis c'est aussi voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment on peut continuer cette conversation qui n'est pas seulement au Canada, mais justement qui touche ce qui se passe ailleurs. José Drouin-Brisebois. Donc, ce que je vous présente ici, cette image, c'est l'identification qui était utilisée par le gouvernement du Canada pour les Inuits. Donc, ils devaient porter ça autour de leur cou. C'était en cuir, c'était une petite médaille, et puis donc on devait l'enfiler autour du cou, donc il y a un espace pour faire justement un collier. Et puis ça dit Eskimo, identification, Canada. Et puis ensuite il y a un numéro, donc E5-1613. Et ça c'est le numéro du cinéaste du film, Zacharias Kunuk. Donc ça représente vraiment comment s'il essayait de contrôler les gens aussi. Il devait me donner ce numéro-là s'il voulait recevoir des chèques, par exemple, d'assistance sociale et tout ça. Et puis, c'était une façon de voir aussi où est-ce que les gens se déplaçaient. Mais c'est vraiment une identification. C'était pas leur nom, c'était un numéro qui était utilisé. Donc, il y a un côté très politique. On parle beaucoup de réconciliation. On parle beaucoup, en ce moment, d'écouter les gens qui ont vécu ces atrocités, qui ont été enlevés de leur famille, enlevés de leur culture, maltraités, justement, parce qu'ils voulaient continuer à parler leur langue, à faire leur tradition. Donc, pour moi, c'est très important de regarder ce moment. Puis, pour un pays, de pouvoir présenter des œuvres, des artistes qui, justement, traitent de ces sujets très sensibles, c'est important de continuer à avoir cette discussion.
La Biennale de Venise, pour l'artiste que vous êtes, à quoi sert-elle? Que donne-t-elle?
C'est une question que je me pose. Quand on voit les critères de sélection de la Biennale de Venise, donc les critères de sélection de candidats et de dossiers, j'aurais pu y répondre. Mais je pense que ça aurait été vain.
Dani Danino.
Je ne sais pas si je pourrais y répondre un jour. L'essentiel n'est pas là.
Un renouvellement pour les jeunes qui veulent apprendre les choses qu'ils ont perdues. Donc, apprendre les langues autochtones qui ne sont plus presque parlées. Et puis, apprendre les traditions. Puis, ce qui est important aussi dans le travail de Aissouma, c'est qu'à travers la vidéo, ils peuvent vraiment venir documenter une culture qui est orale. Ils racontent des histoires. C'était pas une culture où est-ce que les choses étaient écrites. Donc la vidéo, c'est parfait pour justement montrer à ces gens qui ils sont, qui ils étaient et qui ils sont, et pourquoi ils sont. En termes de spectateurs, pour le travail des Souma, c'est tout le monde, mais c'est aussi les Inuits, parce qu'ils travaillent beaucoup d'un côté très activiste pour qu'ils puissent se voir sur la télé. C'était une des raisons pourquoi ils ont commencé à faire des films et des vidéos, des documentaires, parce que quand ils regardaient la télé, c'était pas eux qui voyaient, c'était pas dans leur langue, c'était des gens qui parlaient en anglais, en français, mais pas en Inuktitut. Donc, le cinéaste a commencé à faire justement des métrages pour la télé, pour que les Inuits puissent se voir sur la télé, puis comprendre aussi des choses qui changeaient. Donc, leur remontrer certaines connaissances qu'ils perdaient. Donc, il y a tout un élément de connaissance qui est très important, et puis juste de fierté. Quand on se voit, on s'identifie. C'est très important pour...
Travail historique, travail anthropologique.
Travail historique, travail anthropologique, travail technologique aussi. Donc, c'est important. On va avoir en direct de Igloolik pour la première fois dans le Nord, dans le pavillon, chaque jour de 4h à 6h. Donc, voir qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui.
Pour moi, la Biennale de Venise doit pouvoir offrir un champ à quelque chose qui sort des codes habituels et qui propose à la limite une lecture d'un élément qui ouvre aux autres une envie, non pas seulement de s'intéresser à l'art, mais vers quelque chose qui est universel.
Biennale d'art contemporain, c'est des artistes qui travaillent sur plusieurs plateformes. Ça peut être du film, ça peut être de la vidéo. Quand on a pensé à comment mettre l'exposition en place pour les commissaires, on voulait faire une expérience, donc que les gens pourraient vraiment vivre quelque chose qui n'était pas nécessairement s'asseoir dans un théâtre pour regarder un film. On se déplace, il y a plusieurs écrans, il y a des sous-titres dans différentes langues, donc encore cette idée d'accessibilité. Il y a des sous-titres en français, il y a des sous-titres en italien, il y a des sous-titres en anglais. Donc encore, pour donner le plus de possibilités aux gens d'avoir accès à l'histoire.
Je suis quelqu'un qui croit très fort en l'universalité, au fait que l'art peut communiquer avec une très grande force, quelque chose de très personnel. Pour cela, il faut avoir quelque chose de particulier et de singulier à dire. C'est un champ d'expérimentation qui est probablement l'étape dont rêvent beaucoup d'artistes.
Noah Piougatouk, c'est le personnage principal. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours vécu sur la Terre, donc à Kapuivik. Donc, il est né là et il a toujours vécu là. Et puis, c'est des gens de la communauté, donc de sa famille et quelques autres familles aussi. Donc, ils vivent ensemble, ils ont toujours vécu ensemble. Et ils vivent d'une façon où est-ce qu'ils vont chasser quand il fait beau. Ils partagent tout, donc c'est vraiment une expérience de vie très communautaire. Et c'est le moment où est-ce qu'ils savent que ça va changer. Il y a une discussion, un conflit, une rencontre avec un représentant du gouvernement canadien qui leur dit justement qu'ils doivent quitter, changer leur façon de vivre et puis aller dans un petit village qui s'appelle Igloolik, que leurs enfants doivent maintenant aller à l'école. Et puis qu'ils doivent vivre dans une maison en bois. Puis c'est une façon aussi de mieux les contrôler, leur dire combien d'animaux ils peuvent chasser et tout ça. Donc c'est vraiment rentrer dans une nouvelle façon de vivre qui est réglementée.
Biennale de Venise 2019, pavillon de la France, avec Bart de Bar, directeur du MUCA Anvers, artiste Laure Prouveau. Alors, Barde Bar, une artiste française qui vit à Anvers et que vous avez exposé au MOCA, quel est cet univers? Laurent, c'est un artiste de notre région, pour moi, comme les Joseph Beuys. Surtout les deux, ils parviennent d'une région où l'art et le visuel, c'est dans nos corps. Et je suis très contente maintenant, aujourd'hui ici. Je suis très contente. Je suis très contente aussi de le fait que son grande expo du passé, elle a fait au MOCA. En faisant une synthèse de ce qu'elle avait fait, ici, elle fait un saut fantastique, énorme vers le futur.
Regardez, je ne vois plus l'histoire, mais ça me demande de vous montrer d'où nous venons et où nous allons.
Elle prend tous les éléments de notre contemporanéité qu'on normalement penserait qu'ils sont mauvaises, l'insolite, le faux, l'incerte, l'impossible, et elle y rend des possibilités avec un amour énorme pour les éléments les plus mineurs. Et on sent ça aussi dans la manière dont elle les déploie. C'est impressionnant. Tout le monde devrait voir ce film. C'est impressionnant, c'est fantastique. Mais la capacité qu'elle laisse apparaître, elle ne le prend qu'en portion homéopathique. Une image qui pourrait durer pour 5 minutes, c'est 2 secondes. Soudain, l'espace, on a le bleu qui vient du plafond. On ne le voit presque pas, mais ça affectionne. Énorme, il y a un humour que je pense qui est très régional. Elle vient de la Flandre française, hein? France Flandre. Hein? Et je pense que c'est un humour très fin, très intelligent aussi, avec amour et avec de l'humour. Les sonorités. Aussi les sonorités de couleur, les sonorités de noir et de lumière, les sonorités humaines aussi. Fantastique comme les acteurs qui sont dans la vidéo, soudain, il y a un type qui commence à danser avec le film et c'est quelqu'un qui est aussi dans le film. On a quelqu'un qui explique ce qu'il explique dans le film, mais aussi en réel. Les sonorités. Pas des sons, plutôt des sonorités.
I'm waiting for you.
Et ça cause un bris entre les générations parce que une fois que les enfants vont à l'école et apprennent ce que les Blancs veulent leur montrer, ils commencent à avoir une distance avec leurs parents. Ils apprennent d'autres langues et puis ça devient de plus en plus difficile de survivre. Ce qui est arrivé malheureusement aussi, c'est que dans le Nord canadien, malheureusement, le suicide est très haut. 14 fois plus élevé dans le Nord qu'ailleurs au monde. Il y a vraiment un impact de traumatisme qui devient inné chez ces gens-là. Puis c'est très malheureux parce qu'ils perdent d'une certaine façon leur identité, leur langue, leur culture. Donc c'est l'histoire de ce moment-là, de cette rencontre, de ce conflit. Et puis on peut voir à travers la traduction, parce qu'il y a, quelqu'un qui fait justement la traduction entre le Inuktitut et puis l'anglais, donc l'agent du gouvernement parle anglais. Noah Piugatuk et sa famille ne parlent pas anglais. Et on peut voir la traduction, les mauvaises communications, c'est les malentendus qui se passent. Et puis, juste sur le côté très culturel, ce que je comprends très bien, c'est que les Inuits ne veulent pas dire non. On ne fait pas ça. C'est quelque chose qui est trop fort de dire non. Donc, ils veulent juste ne pas répondre parce qu'ils ne veulent pas changer leur façon de vivre. Alors que l'agent du gouvernement veut absolument une réponse. Puis on peut voir plusieurs approches de façon très émotionnelle, très personnelle, la manipulation, ils se fâchent et toute cette façon pour justement que Noah accepte de déménager et d'être relocalisé alors qu'il ne veut pas. C'est très typique des œuvres de Isuma. On semble voir un documentaire, mais ce sont des acteurs. Oui, et puis il y a des caméramans, c'est vraiment fait d'une façon comme d'autres films, mais c'est à l'extérieur, c'est dans des campements. Même le soir, ils doivent avoir quelqu'un qui fait sûr qu'il n'y a pas d'ours polaire qui approche le campement et tout ça. Donc, puis s'il y a des tempêtes de neige et tout ça, donc ça peut ralentir beaucoup le filmage. Mais c'est des acteurs. C'est des acteurs. Puis, puisque Isuma est devenu très populaire aussi dans les communautés inuites, il y a de plus en plus d'acteurs inuits. Même des gens qui, au tout début, quand ils voyaient les programmes à la télévision d'Isuma, des jeunes inuits qui ont dit qu'ils voulaient devenir acteurs et actrices. Donc, on peut voir que c'est devenu une façon aussi de vivre. Puis c'est pas juste les acteurs, c'est aussi les gens qui font les costumes. Il y a plein de recherches. Donc ça devient aussi une façon de travailler avec une plus grosse communauté de gens qui sont vraiment très doués à plusieurs choses. Puis c'est beaucoup de l'argent aussi qui va à la communauté autochtone, la communauté inuite justement, pour aider ces gens-là à vivre. Donc c'est plus que le film. Il y a tout un autre rayonnement par rapport à la production. Mon rôle est un peu différent parce que je deviens un peu le pont avec le Musée des beaux-arts du Canada qui a fait la commande pour l'œuvre, pour la présentation ici à Venise. Moi, je connais le travail d'Isuma, ça fait déjà 20 ans, mais j'ai connu leur travail comme art et médiatique. Donc, je travaille dans un musée, je suis conservatrice en art contemporain. Et puis, au tout début, dans les années 80, il y avait des œuvres d'Isuma, puis ça venait s'engrainer un peu dans le côté du début de l'art médiatique en termes de l'identité. Donc, moi, je connaissais vraiment leur travail comme vidéo. Je les ai toujours considérés comme des artistes vidéo. Et c'est une des raisons pourquoi ils voulaient travailler avec moi. On est 5 commissaires, donc c'est pas juste moi. Il y en a une qui est jeune commissaire inuite, une qui est commissaire qui est spécialisée dans l'art autochtone, et 2 autres commissaires aussi qui ont différents intérêts dans le travail des Souma. Puis il va y avoir un rayonnement aussi au Canada de leur travail récent. Donc pour moi, c'était vraiment le côté art médiatique. Et puis, le fait que je travaille au Musée des beaux-arts du Canada aussi, donc, pourrait vraiment les aider à négocier ce côté d'une façon aussi très politique, parce que le Musée des beaux-arts du Canada est affilié au gouvernement du Canada. Donc, c'était quand même important pour eux d'avoir une voix à l'intérieur du musée pour s'assurer que leur voix était pour être respectée. Donc, ça, c'était vraiment mon rôle, c'était de devenir un peu la médiatrice entre l'institution, le gouvernement et puis les artistes.
Vous marchez sur des œufs?
Ah oui! Je ne peux pas dire que c'était toujours facile, mais je suis très fière du résultat. Puis on a eu une très, très belle aventure. Puis aussi, travailler avec un collectif, de travailler avec 5 commissaires, femmes, un autre genre de collectif, plusieurs voix, plusieurs perspectives. C'était vraiment intéressant d'apprendre aussi, puis d'avoir une différente méthode de travailler. J'ai beaucoup appris.
Et vous êtes commissaire du pavillon de la Suisse, où nous nous trouvons à la Biennale de Venise. Et la question de la marche arrière est une question qui revient souvent.
En tout cas, c'est le sentiment partagé par beaucoup de gens en ce moment. On est dans une période de réaction. On a l'impression qu'on revient à des temps un peu obscurs, qui sont avec des discours très antagonistes, où les gens, tout d'un coup, ont peur des autres. On est dans une période d'accélération très profonde, très rapide, qui font qu'effectivement, tout d'un coup, ça crée ces mouvements de recul, on va dire. Et du coup, les artistes avaient envie de s'intéresser à cette problématique-là et regarder ces mouvements en arrière dans toute leur polysémie, on va dire. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le côté politique qui est derrière et social, mais il y a aussi, elles ont voulu concrètement regarder qu'est-ce que ça veut dire d'aller en arrière. Donc en termes de nous, avec nos propres corps, qu'est-ce qui se passe quand on va en arrière ? Et du coup, très rapidement, le projet est allé vers la danse, parce qu'en fait, l'endroit où on fait des mouvements en arrière, c'est dans la danse. Et c'est des danses très particulières, c'est des danses qui ont toujours été des danses d'opposition.
Pavillon de la Suisse, artistes Pauline Baudry et Renate Lorenz.
C'est la danse postmoderne contre la danse classique, ça va être le hip-hop contre, on va dire, la culture hégémonique des Blancs. Ça va être... il y a une citation de la danse buto, cette danse japonaise qui est née dans les années 60, une danse vraiment de colère, on va dire.
Pour aller plus loin dans le buto, il s'agit d'une danse qu'on appelle post-atomique.
Absolument.
Avec Charlotte Lobard.
Une chose très intéressante. Après, elles se sont interrogées aussi, qu'est-ce que ça veut dire, ces mouvements en arrière, dans d'autres cultures. Parce qu'en fait, pour nous, occidentaux, ça veut dire régression. Parce que nous avons une culture où on a une vision du temps qui est une vision linéaire vers une sorte d'un progrès infini. Et on sait à quel point, maintenant, aujourd'hui, cette vision-là nous a amenés dans des formes de voies sans issue, par rapport à problèmes écologiques, etc. Et dans d'autres cultures, ou à d'autres époques, ou dans d'autres contextes, ça peut être vu autrement. Ça peut être vu aussi comme quelque chose de positif, regarder en arrière pour pouvoir aller en avant. Ça peut être aussi vu comme quelque chose qui serait lié à des formes de résistance, même si on pense aux formes de tactiques de guerre, où on simule un retrait pour pouvoir trouver d'autres angles d'attaque. Et donc, dans ce projet, il y a tout ça qui est amené à travers des mouvements de danse. Donc c'est ça qui est assez beau avec ce projet, c'est qu'il est très politique et en même temps il est très pop. Donc les gens, je pense, peuvent tout à fait se projeter dedans. Pareil, après la guerre, on s'est rendu compte que notre vision progressiste nous avait amené à faire des horreurs, avec cette rationalité quand même qui a fait mourir 50 millions de personnes. Donc évidemment, ce retour en arrière là a été fait pour essayer de retrouver une forme d'innocence par rapport à ce qu'on avait pu faire. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces questions, elles sont très liées aussi aux questions d'avant-garde. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant qu'on retrouve des choses très essentiellement de l'avant-garde dans un projet de 2019. Je m'appelle Charlotte Lobard, L-A-U-B-A-R-D. D'origine française, je suis aussi moitié suisse. Je vis à Genève depuis plus de 5 ans. Je suis la responsable du département des arts visuels de la Haute École d'Art et de Design de Genève. Et avant, j'étais à Bordeaux. J'étais directrice du musée d'art contemporain de Bordeaux, le CAPC. Depuis le mouvement MeToo, on voit une radicalisation des aspirations des étudiants vers des revendications d'égalité, hommes-femmes, mais aussi pour des personnes qui viennent d'autres horizons culturels, d'autres contextes géographiques. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, de voir de nouveau quelque chose d'assez fort être porté par cette jeune génération. Alors, Pauline Boudry et Renate Lorenz se sont rencontrées à Zurich à la fin des années 90. Elles ont travaillé avec beaucoup de gens de manière collaborative. C'est des personnes qui croient beaucoup à la collaboration. Comme duo, ça s'est vraiment cristallisé en 2007. Depuis qu'elles ont fait leur première vidéo, elles ont tout de suite eu, un succès international. Et en même temps, le propos qu'elle menait sur la question de l'identité de genre était forcément quelque chose qui pouvait être encore pris avec une certaine précaution par les gens. On ne savait pas très bien comment... Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces questions-là, de nouveau, je pense que MeToo a été vraiment un déclencheur. Parce que pour moi, MeToo, ce n'est pas simplement le problème des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. C'est le problème des rapports de pouvoir tout court. Ce questionnement-là devient d'une activité complètement brûlante aujourd'hui. J'ai jamais pu penser que les années 30 allaient revenir. Enfin, c'était même pas du tout envisageable. Donc, c'est quelque chose qui nous a tous surpris, qui est vraiment lié, me semble-t-il, à cette globalisation galopante qui a amené les nouvelles technologies et qui a ses contre-coups. Moi, tout ce que j'espère maintenant, c'est que ces contre-coups vont être assez courts, parce qu'il faut le temps pour les gens de s'adapter au changement. Et on sait bien qu'on a peur du changement. J'espère que la société va trouver des garde-fous aussi pour que ça puisse rassurer les gens et qu'on puisse aborder ce 21e siècle, parce que ça y est, on y est, on le sait, on n'est plus dans le 20e siècle. Il y a encore 10 ans, on ne savait pas très bien où on allait, mais maintenant on sait très bien où on va. Ça fait plutôt peur. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.
石の島ではある若者が眠っているとき、白鳥の群れが飛来していくつもの大岩を空から畑に落としていく夢を見た。翌朝、彼は磯で人間の言葉をしゃべる魚を釣り上げた。この魚は自分を食べないでほしいと懇願したので、若者は海に帰そうとした。
Frédéric Valleuve, nous entrons dans le pavillon du Japon, à la Biennale de Venise, dans les Jardinis. Et au sein du pavillon, une installation. Et au sein du pavillon, une femme qui lit un texte.
ところがそれを見た父親は、彼から珍しい魚を取り上げて、見せしめに食べようとした。魚が助けを求めると、海の彼方から、とてつもなく大きな津波が押し寄せた。
C'est une légende sur le début du monde, une légende qui parle de la naissance de l'humain, des animaux, des forces de la nature, à partir d'un œuf. Et Ishikura, qui est un anthropologue, qui connaît très bien la mythologie, la religion du Pacifique, et en particulier du Japon, a composé ces quatre courtes légendes en s'inspirant de tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a récolté, tout ce qu'il a entendu, pour parler de cette coexistence entre trois entités, les forces de la nature, l'humain, l'animal. Et les forces de la nature, c'est justement le propos du pavillon japonais, puisque Cosmo Egg, l'œuf du cosmos, c'est une réflexion à partir de ces énormes rochers qui ont été soulevées par le tsunami de 2011 et qui ont échoué sur les plages d'Okinawa, un archipel au sud du Japon. Ces rochers, boulders en anglais, des immenses rochers en forme d'œuf, ont été photographiés par un artiste qui s'appelle Shitamichi et qui est fasciné par les ruines. Il a beaucoup photographié les ruines de la guerre, par exemple, au Japon. Et donc, il s'est mis à photographier ces rochers soulevés par les tsunamis, échoués sur les plages ou même dans les terres d'Okinawa. Et cette force de la nature qui soulève ces rochers de milliers de tonnes propose quelque chose d'une mythologie de la naissance de l'être humain. Comment renaissons-nous dans une époque d'aujourd'hui où la nature est bouleversée, cette fois-ci par l'anthropocène, par l'œuvre de l'homme? Comment est-ce que cette nature ressoulevée, brisée, projetée, peut donner naissance à une autre idée de l'homme et de la coexistence entre l'homme et les animaux? Et donc cette légende parle de la naissance de l'homme à partir d'un œuf.
津波は白鳥が翼を広げるように襲いかかり、島のすべての生物が大波に飲み込まれた。陸地にはサンゴに覆われた岩が残され、溺れた生物は宿かりになった。若者は妹を連れて島の一番高い山に逃れ、石にしがみついてかろうじて生き残った。
Ces quatre courtes légendes qui ont été écrites par Ishikura sont gravées sur les murs du pavillon japonais. Et cette gravure de l'histoire mythique de l'homme, c'est important qu'elle soit gravée parce que les photos, elles, ce sont des vidéos en fait. Des vidéos qui sont faites par Shitamichi qui est allé filmer ces boulders, ces énormes rochers soulevés par le tsunami. Et il les projette sur des écrans qui sont amovibles. Et donc il y a quelque chose entre le rocher immobile, le fait que ce soit une vidéo où il soit légèrement en mouvement, projeté sur un écran qui est lui-même amovible, crée quelque chose entre le statique, la masse immobile, et le mouvement de l'homme. Le texte, lui, est gravé, et les images, elles, sont amovibles. Et c'est la particularité de ce pavillon japonais. Il y a quelque chose entre le mouvement, dans le mouvement, le statique. D'abord, le mouvement de la rencontre entre ces quatre artistes, puisqu'il y a un anthropologue, un photographe, un compositeur et un architecte. Il y a tout un processus en fait à cette création du pavillon japonais. Il faut vraiment prendre le temps pour essayer de comprendre ce processus. Donc tout un mouvement lent qui a mené à la réalisation de ce pavillon japonais et un mouvement entre leurs différentes propositions. L'aménagement de l'espace qui est très sobre avec quatre textes gravés, quatre écrans, quatre séparations qui permettent d'accéder aux quatre faces du pavillon, et puis au milieu, cet énorme coussin orange, un peu comme les cônes de Lundbeck, dont la base est située sous le pavillon. Donc le sol du pavillon est troué. Il est troué pour laisser passer cet énorme coussin orange, d'où émerge une série de câbles, et ces câbles eux-mêmes reliés à un appareillage complexe, produisent des sons. C'est une composition de chants d'oiseaux, mais à partir des souffleries du coussin.
Biennale de Venise 2019, art plastique. Impression dehors du pavillon de la Belgique. Arrêt sur pavillon Giardini, Arsenal. Canada, France, Suisse, Japon, Madagascar. Au pavillon de Madagascar. Première participation à la Biennale de Venise ?
Oui, première participation, effectivement. Mais nous ne sommes pas à Madagascar, nous sommes à Venise, justement. Et c'était bien ça, le propos. C'était l'idée de faire venir pour la première fois la grande île, un petit peu oubliée de l'océan Indien, qui n'a pas beaucoup de visibilité, effectivement, dans le domaine artistique, alors qu'il y a des très grands artistes qui vivent là-bas et qui essayent d'exprimer un art qui est différent. Certes, Joël Andriano Meharissou est un artiste du monde entier. Il partage sa vie entre Tananarive, Paris, Madrid et même Istanbul. Il est partout, il était à Hong Kong, Basel il n'y a pas longtemps. Malgré tout, c'est un artiste qui a été élevé là-bas, qui est originaire de cette ville, qui qui adore vraiment Tananarive. Et cette œuvre traduit les nuits de Tananarive. Pour lui, c'est ça. C'est un espèce de palais de nuit, de vent, de noir, de profondeur dans lequel on s'enfonce, un labyrinthe de passion. Cette nuit qui fait peur, mais qui permet aussi de ce que les poètes appellent des presque songes pour imaginer autre chose que ce qui existe.
Pavillon de Madagascar avec Emmanuel Daïdé et Claude Stadelmann. Vous dites presque songe.
Exact, c'est le titre d'un recueil de Jean-Joseph Rabervel, un très grand poète malgache qui écrivait à la fois en français et en malgache, qui a aussi écrit un grand poème qui s'appelle Traduit de la nuit, et qui pensait que l'on pouvait évoquer les choses en les rêvant. C'est-à-dire que, par exemple, il disait que Madagascar pouvait être une tombe, mais qu'il avait une autre deuxième tombe qui était son cœur. Les choses sont doubles, et c'est la nuit qui permet d'évoquer le pays réel et le pays rêvé. Et on peut dire que ça, c'est aussi une évocation du pays rêvé, tout en étant un pays réel, puisque c'est du papier, c'est quelque chose de très matériel. Et ça évoque aussi un palais précis à côté de Tananarive, qui est le palais d'Ilaf, qui est un palais royal, qui était pour le roi Radam II, qui est mort assassiné aussi. Donc cette histoire à la fois de passion et d'histoire malgache, mais transmis vers l'avenir avec ce, vous voyez, ce palais qui est en suspension. Rien ne touche, ni au sol, ni sur les côtés, ni au plafond. Un espèce de grand palais labyrinthique. Ce sont les portes de la nuit que l'on peut pénétrer. On peut même passer dessous, vous voyez. Donc pour sentir comme une sculpture, comme quelque chose qui à la fois vous pèse sur les épaules et en même temps tellement léger que vous ne le sentez pas.
Jacques Hillec, je vous pose la question car je consacre ce jeudi une émission sur la Biennale de Venise hors Belgique, donc dans le monde avec quelques aspects.
Ce que je trouve fabuleux dans la Biennale de Venise, c'est l'espace où ça se déroule. Découvrir l'art contemporain dans une ville aussi marquée par l'histoire et sa particularité, c'est une double nourriture.
Et donc on espère que c'est un voyage, une expérience au cœur de la grande île.
Je prends des points de repère qui sont les incontournables et puis je circule dans la ville et quelquefois je fais des découvertes surprenantes qui n'étaient pas au programme. Et ça, c'est, je crois, rare de pouvoir faire ce type de déambulation dans un festival d'art contemporain.
Emmanuel Daïdé, je suis un des deux commissaires de ce pavillon.
C'est une ville au croisement, effectivement, avec une architecture d'une force. Enfin, moi, je suis un fou d'architecture, et l'architecture de toutes les époques. Mais là, je me sens dans mon élément, je me sens bien. C'est sans doute pourquoi je suis à Tournai, d'ailleurs, qui est un choix. Je crois qu'il y a des lieux magiques. J'ai été il y a un an à Persépolis. J'ai eu la même intense émotion.
Oh, parce que je connais l'artiste depuis très très longtemps, depuis près de 25 ans. Je l'ai vu quand il est arrivé à Paris. Je l'ai vu évoluer. Je l'ai vu devenir ce qu'il est. Et c'est pour ça que je lui ai dit cette année, il faut absolument que tu représentes Madagascar à la Biennale de Venise. Parce qu'on avait l'habitude de venir en fait ensemble souvent à la Biennale, mais pour voir. Et donc j'ai dit, arrêtons de voir, montre ce que tu fais, et représente ton pays, montre qu'il y a un art qui est particulier, qui n'est pas un art africain, qui est entre l'Afrique et l'Indonésie, qui est un art très spécial, hein, c'est l'art de l'océan Indien, c'est particulier et je pense qu'il fallait, voilà, il fallait montrer sa place.
J'ai pu rencontrer un cinéaste suisse qui suit l'artiste.
J'ai fait un travail sur une artiste qui est d'origine belge, qui s'appelle Myriam Mersch, qui vit à Tananarive et à Tamatave depuis 40 ans et avec qui j'ai fait un film. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Zouzard, qui est lui sponsor et mécène de toute cette entreprise ici et qui aide beaucoup les artistes à Madagascar. Donc c'est par l'intermédiaire de Madame Myriam Mersch que j'ai connu Zouzard et qui a eu la gentillesse de m'inviter ici à la Biennale pour la première inauguration d'un pavillon malgache, une première dans l'histoire de la Biennale et dans l'histoire de Madagascar surtout.
Claude Stadelmann.
Moi, ce qui me surprend absolument, c'est de voir le thème choisi par Joël. Parce que la notion du temps, la notion est tout à fait particulière à Madagascar et d'avoir pris le risque de la représenter sous la forme noire, sous la forme de la nuit, c'est quelque chose qui est tout à fait original et puissant à Madagascar. C'est très très rare, c'est très 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 original parce qu'on a plutôt l'habitude d'entrer dans le quotidien et la préoccupation du capoc de riz, pour reprendre une métaphore. Tandis qu'ici, on est dans une expression artistique volontaire et complètement en dehors des chemins battus de la création. Moi, je l'appelle plutôt artisanal à Madagascar, plutôt qu'artistique, sans faire une hiérarchie de valeur. Mais ici, il y a un vrai risque.
Dans l'art malgache, le noir existe. Hein. On sait que les planches de palissandre noire étaient extrêmement sacrées. Il ne fallait pas qu'elles touchent le sol. Et remarquerez, ici, ça ne touche pas le sol. Donc il y a aussi ce sentiment du sacré, puisqu'il est quand même inspiré du palais d'Ilaf,
oui,
qui est un palais tout noir.
Oui, oui, hein,
qui était un palais de plaisir dans lequel le roi a été assassiné. En plus, donc avec ce sentiment mêlé de plaisir et de mort.
Oui, 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 parce que ça c'est étroitement lié toujours à Madagascar. Et encore aujourd'hui, étant donné que par exemple, ce qu'on appelle la fête du retournement des morts, c'est toujours lié, le plaisir de la fête est lié à la mort. On ressort les morts pour les célébrer. C'est-à-dire que les ancêtres sont célébrés dans une ambiance complètement sacrée, mais festive également. Donc il n'y a pas de rupture entre la folie de la vie et puis le mystère de la mort.
Et c'est un artiste qui est très productif, qui travaille énormément et qui pense énormément à ses œuvres. Il a un immense atelier dans la Creuse en France, qui l'inspire beaucoup d'ailleurs aussi, ça fait partie de ses inspirations. Cette espèce de géométrie émotionnelle, radicale, avec ce travail sur le noir et l'outre-noir, qui est un noir-lumière, puisque vous voyez que c'est la lumière qui fait la forme en fait.
Parce que moi j'ai filmé l'île depuis à peu près 30 ans, j'ai commencé moi par faire un film qui est une fiction, une docu-fiction, qui s'intitule Taxi Vanille. Je me suis inspiré bien sûr de la culture de la vanille et puis de l'histoire de Madagascar, l'histoire un petit peu légendaire d'une reine qui s'appelle Betsirane et qui va voyager dans cet univers de la vanille. Et donc c'est ainsi que j'ai appréhendé cette île et puis encore aujourd'hui j'y travaille, je viens de terminer le tournage d'un film sur le zébu, un documentaire absolument.
D'accord.
Il m'intéresse de porter mon regard sur Madagascar à travers cet animal qui ô combien est emblématique. Et symbolique, il est partout le zébu.
Bien sûr.
Il est dans les champs, il est dans les temples, il est sur la monnaie.
Et puis maintenant, il y a les voleurs de zébu.
Et maintenant, il y a les dalles.
Histoire,
ces fameux dalles, les voleurs de zébu. Donc cet animal fait partie. Et j'ai peut-être l'intention, sinon le désir, d'en faire une synthèse pour terminer ma boucle à Madagascar. J'ai fait sept films-là et il m'intéresse de terminer avec cet animal qui est synthétique, mais dans toute sa force.
C'est difficile, évidemment, à Madagascar, parce qu'il n'y a pas de musée, par exemple, il n'y a pas de centre d'art, vous voyez, donc c'est très difficile de s'exprimer. Et Joël a été un des piliers, en fait. C'est lui qui a un peu redonné ce renouveau, mais il y a déjà très longtemps. Après, il a quitté Madagascar pour le porter ailleurs, pour que, justement, ce soit connu. Mais il y a une scène artistique à Tananarive et même dans toute l'île. Bien entendu, c'est plus difficile. Et puis, il y a les aléas politiques, il y a des moments où on peut s'exprimer, des moments un peu moins. Je pense que là, on a un moment un petit peu particulier avec un nouveau président qui donne une espèce de souffle où tout d'un coup, Madagascar, ça ne sont pas que des problèmes. C'est aussi une façon de vivre, de considérer la vie, de considérer l'art, de penser le monde. Je pense que Madagascar a des leçons à nous donner. Et ils peuvent la donner, mais il faut leur en donner les moyens. Et c'est pour ça que nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu présenter ce pavillon à Venise au sein du Concert des Nations.
Biennale de Venise 2019. Impression en dehors du pavillon de la Belgique, avec José Drouin-Brisebois, Charlotte Lombard, Bart de Bar, Frédéric Van Leuve, Emmanuel Daïdé, Claude Stadelman, et la participation de Danny Danino et Jacques Leg.
Mais ce serait bien de faire un film de fiction, parce que c'est ce qui manque à Madagascar. Il y a peu de films de fiction, très peu.
De fiction, bien sûr.
Et
moi, j'avais
dommage.
Un magnifique projet de fiction sur le règne de la première reine de Madagascar,
oui.
Sur Ranaval.
Oui.
On a appelé la Cruelle. Mais j'ai écrit cette fiction.
Il faut le faire.
Mais non,
personne ne vous suit.
Ça coûte un
peu. Je sais.
Si on veut le faire vraiment avec tout ce que contient cette histoire,
oui.
Avec son folklore, toute sa... J'utilise beaucoup le mot puissance, parce qu'il y a cette puissance à Madagascar. C'est-à-dire qu'il faut le faire en costume.
Oui.
Et puis il ne faut pas négliger.
Voilà. Non, il faut que ce soit bien.
Voilà, donc ça coûte des millions, des millions.
Ça coûte des millions.
On va parler en euros. Mais donc aujourd'hui, ce n'est pas possible.
C'est
bien, il faut trouver un mécène comme M. Zouzard ici, mais qui met 50 millions d'euros.
On va essayer.
Mais vous avez
Moi, j'aimerais bien.
Et il semble que l'actuel président de la République, Rajoelina, soit assez sensible, notamment sa ministre de la Culture, à remettre au goût du jour, ou pas au goût du jour, à remettre en valeur le patrimoine. Et notamment, ils vont faire
le Rouvre.
Voilà.
Oui, le Palais Royal.
Ils vont faire des efforts pour terminer le Rouvre.
Ben oui.
Moi, je l'ai vu, je l'ai vu en feu.
Ah oui.
En 94.
Ah
oui. Oui, en 94 pour nous.
Ah ouais, oui. Moi, j'ai vu Notre-Dame, mais j'ai pas vu.
Voilà.
Biennale de Venise 2019, art plastique. Impression dehors du pavillon de la Belgique. Arrêt sur pavillon Giardini, Arsenal. Canada, France, Suisse, Japon, Madagascar. Biennale de Venise 2019 jusqu'au 24 novembre. Biennale de Venise 2019 par Thierry Jeunicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.